Satellite, la radio autour de Lux. Le Dami et l'onde porteuse présentent une série de 8 épisodes au cœur des défis de cette vaste planète des industries culturelles et créatives.
Épisode 6, repenser l'industrie textile, l'univers de Picture Organic Clothing.
La marque Au Sapin s'évertue à avoir un impact positif en développant depuis des années son entreprise autour de l'innovation textile et de production, s'alignant avec leurs valeurs. Rider, protéger et partager. Pour nous en parler de cette aventure incroyable, Vincent André, directeur général de Picture Organic Clothing. Bonjour et bienvenue.
Et bonjour, et merci de l'invitation.
Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu un avant et un après Picture dans le domaine de l'équipement ?
Ah ben forcément je vais dire oui parce que ça va flatter mon ego, mais je pense que quand on a démarré personne ne nous attendait parce qu'il y avait déjà beaucoup d'équipementiers qui proposaient du matos d'outdoor. Après là où ça a été important c'est je trouve qu'on a réussi à amener sans nous envoyer trop de fleurs non plus parce qu'il faut rester humble, mais on a réussi à amener un espèce de design hyper disruptif qui n'existait pas il y a 15-16 ans, donc le color blocking, le tricolore sur certaines vestes, qui était hyper marquant. En tout cas, c'était très visuellement identifiable que c'est du Picture versus autre marque. Donc ça, c'est ce qu'on a amené. Après, sur le plan technique, on a amené des choses puisqu'on a réussi à amener des membranes qui étaient biosourcées. On a réussi à amener aussi le polyester recyclé, ce qui n'était pas vraiment fait à l'époque, mis à part certaines grandes marques qu'on connaît qui œuvrent depuis très longtemps dans l'écologie. Et on a amené après tout un tas d'autres choses. Mais bon. Donc un avant, un après, je pense que oui. Et puis on continue d'innover, donc on va essayer de continuer en tout cas.
Une petite question un petit peu chauvin. En tant qu'acteurs locaux, vous êtes resté basé dans l'agglomération clermontoise. Cela est-il une source d'inspiration pour vous ?
Oui, parce que le Puy-de-Dôme ou même l'Auvergne d'une manière générale, ferai attention, je n'emploie pas encore Auvergne-Rhône-Alpes, il y a ce côté chauvin qui reste énorme, mais je plaisante, parce qu'on a les deux pieds, nous, et en Auvergne et en Rhône-Alpes, puisque mes associés et notre antenne annécienne est bien en Rhône-Alpes, mais le siège social est bien en Auvergne, et en fait, on a... c'est là où on a nos potes, nos parents, nos partenaires du départ. Et c'est, mine de rien, c'est aussi là qu'on a puisé notre force au début, parce que c'est vrai que c'est un peu, tu pars un peu vers l'inconnu. Et que ce soit en créativité ou même des fois juste en disant « Non mais vas-y, ça va le faire, t'inquiète pas, la première année elle est compliquée, bon la deuxième aussi, la troisième aussi, mais et puis la dixième aussi finalement. Mais, » Mais tout ça pour dire que oui, c'est une source d'inspiration et c'est aussi une force parce que... parce que tu joues un peu à domicile. C'est un peu à l'image des matchs d'hommes ou à l'extérieur. Quoi.
Pourquoi la labellisation B Corp ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Ça représente beaucoup de choses. Déjà, ça représente un label qui est mondialement connu. Et ça, c'est pour ça que c'était extrêmement important pour nous. C'est que ça soit vraiment un label qui met d'accord tout le monde sur n'importe quel pays. Ça, c'était vraiment la base de la base. De plus, il est très difficile à avoir. Et on est très peu à l'avoir, parce qu'il est difficile. Donc du coup, effectivement, pour nous, B Corp, c'était... Et puis, ce qui est intéressant avec B Corp, c'est pas que ces sujets-là, c'est surtout aussi que, pour être labellisé, tu vas toucher à tous les segments d'entreprise. Peu importe quel genre de segment, c'est-à-dire qu'ils vont même te demander jusqu'à regarder les banques avec qui tu travailles, par exemple. Ce qui peut te faire gagner ou perdre des points. Typiquement. Donc ça va très très loin. À la direction, c'est par exemple changer les statuts et mettre un truc écrit dans le marbre comme quoi, que ce soit avec ou sans nous, la mission de base de Picture continuera. Donc c'est des choses quand même qui sont poussées et qui vont loin et qui pour nous étaient hyper engageantes, donc nous faisaient plaisir. Et en plus de ça, les équipes, mine de rien, se prennent vachement au jeu d'essayer de gagner un maximum de points pour les retrouver, par exemple, Patagonia. C'est une des missions de la marque, c'est d'ici dans 3 ans, prochain audit, il faut qu'on soit vraiment très très proche d'eux, voire derrière ou au même niveau. Donc ça devient un objectif ludique, tu vois. Voilà.
Vous avez des engagements très éthiques dans votre production en utilisant des matériaux plus propres et en vous entourant d'acteurs qui aussi ont ces mêmes valeurs-là. Mais aujourd'hui, Jusqu'où pouvez-vous aller dans cette démarche écologique ?
On peut aller relativement loin à partir du moment où les tiers, c'est-à-dire les entreprises avec lesquelles tu es obligé de collaborer pour avancer, notamment les fileurs ou le transport, vont aussi à la même vitesse que toi. Souvent, on a envie de plein de choses, mais on se retrouve vite buté et confronté à des problèmes, des fois qu'on peut résoudre assez facilement. Mais des fois, quand on dit, par exemple, la relocalisation, il va quand même falloir transporter les matières premières d'un point A à un point B qui est très loin, parce qu'en France, on ne le fera pas, ça n'arrivera pas. Et on a le problème de la mutation énergétique des transports qui n'est pas encore fait et qui, du coup, pose un problème majeur dans avancer rapidement là-dedans. Mais du coup, là, se pose aussi le rationnel de se dire l'empreinte carbone de Pitcher, c'est quoi ? Le transport, ça représente 6%. Est-ce que ça vaut le coup de s'attaquer tout de suite et limite faire un camion à l'hydrogène ? Non. Coût versus bénéfice derrière, ça n'en vaut pas la peine. En revanche, d'aller aider les usines à transformer leur modèle énergétique, quand ça représente 50 à 55% d'empreinte carbone de la marque, là oui, il vaut mieux investir du temps, de l'énergie et de l'argent là-dedans, ça c'est clair. Nous, notre parti pris, ça a été de se rapprocher de la matière première, par exemple. Donc effectivement, quand tu te rapproches de la matière première, que ce soit du coton, du polyester recyclé ou même du biosource, c'est pas en France. On ferait de la laine, ça serait un peu différent, je pense. Mais on n'exclut jamais demain de faire autrement. Ça, faut jamais dire jamais, ça serait une erreur monumentale.
Satellite.
Pourquoi en France est-il si difficile pour vous de mettre en place du recyclage ?
Alors on en fait déjà beaucoup, puisqu'on utilise à peu près 80% de fil recyclé versus du fil conventionnel. Et on pourrait faire 100%, mais en fait tu aurais une résistance à abrasion qui serait vachement plus accrue. Ce qui fait que quand tu achètes une veste et qu'elle commence à boule au cheveu au bout de 3 jours, t'en veux aussi à la marque. Mais là on pourra rien y faire. C'est là où on a des complexité technique qu'on a réussi à gommer avec, par exemple, le fil biosourcé et qu'on pourrait gommer aussi avec une entreprise qui s'appelle Carbios, qui est en train justement de mettre au point une enzyme qui permet de régénérer, par exemple, le plastique recyclé, ce qui est une très bonne chose. Donc, il y a plein de choses dans les tuyaux. Et encore une fois, faut attendre qu'on puisse le faire à niveau industriel. Et ça, c'est pas nous qui pouvons, faire plus vite. Donc il y a ça. Et puis après, il y a toute la partie recyclabilité des produits. En fait, aujourd'hui, au bout de 15 ans, on n'a pas encore beaucoup de vestes qui sont arrivées en fait, au bout de leur vie. Donc on n'a pas récupéré grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup qui sont foutus, on va dire. Mais on organise des collectes, on organise tout ce qu'il faut. Mais là, pour l'instant, on n'a pas des masses de choses, quoi. Donc, et puis le dernier truc que je pourrais ajouter, c'est que ce qui pousse aussi les gens à les garder ou à les, par exemple, les vendre sur une grande plateforme qui s'appelle Vinted, par exemple, ou Le Bon Coin, ou plein d'autres, puisqu'on demande aux gens, en tout cas, on leur fait passer le message que si tu ne le portes plus, vends-le. Ça, c'est parce que tu atteins la neutralité carbone d'un produit à partir du moment où tu vas lui allonger son espérance de vie. Ça, c'est une réalité. Et le truc, c'est chez nous, c'est pour ça qu'on a mis en place il y a 5 ans la réparabilité à vie. Donc on pousse les gens à les faire réparer gratuitement plutôt que le remplacer. Chose qui serait plus simple, mais pas efficace si on parle d'empreinte carbone, quoi.
Nous savons que nos matières premières telles que le pétrole n'est pas épuisable. D'autres alternatives sont proposées, mais pour le démocratiser, pensez-vous que les gouvernements ont un rôle à jouer dans cette démarche ?
Totalement. Mais il n'y a pas que le gouvernement, les entreprises aussi. On est les premiers utilisateurs, hein, faut pas l'oublier. Mais le gouvernement a un gros rôle à jouer sur la vision d'avenir. Parce qu'une entreprise, tant que tu lui dis qu'en gros c'est open bar, pourquoi aller changer ? C'est toujours pareil, une entreprise elle est quand même là pour faire un peu de profit, puisque c'est le but d'une entreprise, c'est pas une association. Et donc du coup, il ne faut pas blâmer non plus les entreprises qui ont ce mindset. Nous, on n'a pas le même, parce que l'idée c'est de la sobriété. Mais je ne blâmerai jamais les autres boîtes, des fois qui te disent pourquoi aller faire ça ? Alors tu lui expliques pourquoi ? Mais en réalité, tant que tu ne taxes pas d'une manière significative les énergies fossiles, le mec, il ne va pas bouger. Et je ne vais pas dire que c'est normal, mais c'est rationnel. Si tu prends vraiment un mec qui pense comme un fichier Excel, de toute manière, tu auras bien beau lui raconter ce que tu veux, il va penser comme un fichier Excel. Encore une fois, le gouvernement a un rôle à jouer par rapport à ça, par rapport aussi à, par exemple, l'hyperconsommation, par exemple de proposer une modification de la norme REACH. Nous, par exemple, on est membre actif de Fairware, mais membre actif aussi en mode climat et membre actif de d'autres groupes comme ça qui, justement, poussons, à l'inverse de nous, notre modèle économique, par exemple, qui est de dire on taxe beaucoup plus fortement les importations en provenant d'autres pays que l'Europe. Ça ne nous arrange pas de dire ça. Mais ça permet quand même de te mettre un coup de pied au cul, si je peux parler gentiment. Et alors nous, c'est facile parce qu'on est déjà quand même bien en avance sur tout un tas de trucs de la norme REACH. Mais ça permet quand même une harmonisation et de faire bouger les lignes. Et ça, c'est qu'au niveau politique que tu peux le faire.
J'aimerais rebondir sur ce que vous dites. Vous, à votre échelle, arrivez-vous à justement accompagner, aider des innovations qui peuvent, à l'avenir, vous servir ?
Bah oui, oui. Typiquement le fil biosourcé ou typiquement le natural prenne. On était les premiers à utiliser le natural prenne. Pour les non-initiés, en gros, le néoprène et le géoprène, c'est un dérivé du pétrole qui permet de faire les combinaisons de surf. Nous, il était impensable pour nous d'aller mettre du pétrole sur le dos de personnes qui prônent justement le côté très nature et dire voilà, je veux vivre tranquillou sur la plage, faire mon petit feu, manger mon petit truc, aller rider la vague. Mais par contre, un gros truc de pétrole, en plus, qui n'est pas recyclable, ça c'est impossible. Du coup, on s'est dit, on pourra jamais faire ça. Par contre, on sait qu'on doit proposer des vêtements techniques ou des alternatives techniques pour la pratique des sports outdoor. Ça, c'est notre rôle. Notre mission, c'est ça. Et d'être agitateur d'idées. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est juste de chercher les innovations et dans ces innovations, d'y croire, en tout cas de les acheter. Parce que sinon, si personne n'y va, le constructeur était à deux doigts de l'annuler, par exemple. Et maintenant qu'il y en a un qui s'y engouffre et qu'un deuxième va s'y engouffrer parce qu'il dit « Oh, purée, si Pitcher y va, ça peut être bien d'y aller. » Et après, il y en a un troisième, puis après, on a oublié d'en faire un peu. Et ça donne la chance à l'inno. Mais il faut toujours qu'il y en a un qui se lance.
On comprend bien que vous planchez sur plusieurs innovations, que vous avez déjà planché dans le passé. C'est quoi la prochaine innovation qu'on peut voir venir ?
C'est pas une vraie innovation en tant que telle, parce que chez nous, la R&D, c'est essentiellement éco. On mettra pas d'écran dans une veste ou un truc comme ça, c'est pas notre truc. Ou de puce qui va te calculer ton altitude, ta vitesse, tes machins. Bon, ça, il y a déjà assez de trucs comme ça qui le font. Non, nous, c'est essentiellement éco. Et la prochaine innovation, je pense, ça va être notre transition de modèle. Un système où on produira moins, mais il faudra qu'on continue quand même de se développer, parce que si on se développe pas, on peut pas payer les gens et on peut pas développer d'inno sans argent. Tu ne fais pas grand-chose de toute manière. On le voit bien dans nos modes de vie de tous les jours. Donc l'inno, ça va passer vraiment par là. Plus de sobriété, plus de créativité et d'innovation technique qui va dans le sens de la neutralité carbone pour pratiquer tes sports outdoor. Mais l'idée, c'est de décharger tes armoires. En fait, qu'on arrête de surconsommer. Mais comment on fait pour que, mine de rien, la société continue de tourner ? C'est aussi ça le truc. Donc c'est cette transition de modèle économique qui va devenir notre cheval de bataille pour les 10 prochaines années.
Je vous remercie Vincent André de nous avoir fait découvrir l'esprit de Picture. L'interview est à retrouver sur le site de la radio Le Chantier. Merci à vous.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Satellite, merci. La radio autour de luxe.